gang de Gravel dans le retour vous souhaite un bon jeudi, 16h18. On salue Audrey qui prend quelques jours de repos et de vacances. Mon nom est Denis Gravel, Véro est là, Max est là. Et pour être sûr d'assurer le suivi pour les gens qui, lorsqu'Audrey fait la circulation, sont perdus, confus, ben Max va faire son possible pour faire perdurer la tradition.
C'était déjà difficile sur Robert Bourassa Nord. Ça va l'être encore plus parce qu'il y a un accident à la hauteur de la rue Carreau, la voie de droite qui est partiellement entravée. La SQ, les services d'urgence qui sont sur place. Sinon, c'est pas compliqué. Là, tout ce qui s'en va vers le croisement Capitale et Laurentienne, là, Capitale Ouest, Capitale Est, Laurentienne, direction Sud, tout ça, il y a pas mal de rouge dans le secteur. Et pour ce qui est de passer de la rive Nord à la rive Sud aussi, là, que ce soit Duplessis ou Henri IV, direction sud, ça commence à refouler à peu près jusqu'à la hauteur de la 40 ou pas loin. Sur la rive sud, c'est surtout la 20 ouest entre route du président Kennedy et Taniatak, c'est difficile.
Pourrait ça être moins clair un peu pour les habitués de Gravel dans le retour, s'il te plaît, ça serait comme apprécié.
Trop parlant de 17h arrive.
On a comme une tradition non, de non-excellence.
Mais avant 17h, ça va, c'est après 17h que
ouais,
je dérape.
Ouais, ouais. Effectivement, on l'a fait trop de bonheur. Là. Il est 16h20, 420.
La circulation présentée par Eurospec.
Vous conduisez une européenne pour tous vos besoins. Mécanique générale, performance, alignement, entretien, pensez Eurospec. Euro-spec.ca.
Sam Tremblay, Michaud, chroniqueur automobile, comment est-ce qu'il va?
Hey, ça va bien, ça va super bien.
Plein de choses à jaser aujourd'hui, puis je sais en plus que tu reviens de voyage, puis j'ai hâte de te poser des questions. Là. Mais d'abord, on va parler des voitures à hydrogène.
Oui.
Ça peut-tu être techniquement possible? Ça peut-tu être techniquement l'avenir?
L'hydrogène, c'est un peu la carte Joker de plein de monde qui n'aime pas les voitures électriques.
Ouais. Je sens qu'on l'entend souvent. Ouais. Là, pourquoi on s'en va vers l'électrique? On n'a pas testé l'hydrogène encore.
Ouais, puis moi, je fais partie de ceux aussi qui dit laissons une chance aux coureurs dans le sens que c'est une autre technologie. On va mettre ça au clair en partant. Ça reste une voiture qui est motorisée par de l'électricité. Donc, au bout de la ligne, l'hydrogène convertit de l'énergie pour une batterie qui est dans une voiture et cette énergie-là est redistribuée à des moteurs électriques.
Okay.
Donc, au bout de la ligne, c'est une voiture électrique.
Une voiture électrique qui fonctionne différemment.
Exactement. Elle ne fonctionne pas avec le jus qu'on prend dans un poteau quelque part.
Okay.
C'est comme ça qu'on pourrait le voir à la place, c'est qu'on va emmagasiner de l'hydrogène dans un réservoir, un peu comme on le fait avec l'essence.
Est-ce qu'on entend encore ce discours-là? Parce que moi, si je me téléporte 10 ans en arrière, on disait qu'on sautait peut-être trop vite sur la technologie, mais là, finalement, on vend des véhicules électriques de plus en plus, puis ainsi de suite. Ouais. Le marché semble avoir fait son nid et son lit, ou peut-être pas?
Ça dépend. T'sais, la voiture électrique en tant que telle, oui. Là, on avance beaucoup. C'est la batterie là, qu'on connaît de mieux en mieux. Cette technologie-là, clairement, continue à faire son cours et va continuer à le faire également. On n'est pas en train d'arrêter. Au contraire, on investit encore là-dedans. Donc, on voit qu'on va développer des nouvelles batteries qu'on espère qui seront moins lourdes, qui seront aussi moins composées de matières rares pour qu'elles soient moins coûteuses et aussi qu'elles fassent moins d'impact sur l'environnement lors de la confection de ces voitures-là. Donc, présentement, ça continue. Maintenant, pour l'hydrogène, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un peu la mal-aimée actuellement dans le domaine de l'électrique parce que ça demande beaucoup d'énergie à produire. La conception d'hydrogène, elle est vraiment compliquée. Et ce qu'on dit, ce que plusieurs experts vont dire, c'est qu'au bout de la ligne, ça reste toujours plus efficace de simplement prendre l'énergie et la mettre dans une voiture que de prendre de l'énergie pour créer un gaz qui va ensuite aller dans une voiture. Donc, l'hydrogène, présentement, n'a pas vraiment un avenir très clair devant elle, surtout pas dans le véhicule particulier parce que, justement, c'est une matière qui coûte cher à produire, qui demande beaucoup d'énergie aussi, mais qui a l'avantage, par contre, de se remplir extrêmement rapidement. Et c'est vraiment ça l'argumentaire. Il y a beaucoup de spécialistes qui s'entendent pour dire que si on avait choisi l'hydrogène au départ dans le développement de la voiture électrique, probablement que c'est celle-là que les gens préféraient. Mm-hmm. Parce que l'idée de remplissage est le même. On va dans une station, ça prend quelques minutes et on repart avec du courant disponible.
T'as pas besoin de t'installer sur une charge puis de regarder, mettons, 3 épisodes d'une série Netflix avant de repartir.
Exactement. On peut éviter ce bout-là. Et aussi, on traîne une batterie qui est beaucoup moins grosse, donc qui a moins d'impact sur l'environnement. Mm. Là, maintenant, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement du Québec testait depuis plusieurs années des véhicules d'hydrogène dans la flotte de véhicules du gouvernement. On faisait un banc d'essai de véhicules d'hydrogène ici, dans la capitale nationale. nationale.
Okay.
C'est ici aussi qu'on avait le seul réservoir d'hydrogène de disponible aussi. Là.
Il est où?
Il est sur le coin.
Saint-Jean-Baptiste.
Ouais, c'est Armo Énergie qui produit ça sur le bord ici.
Okay.
Il y a juste une station.
Ça m'a toujours fasciné de passer à côté de tout ça. Puis j'étais comme, mais qui a une voiture à hydrogène?
Le gouvernement. Donc, il n'y avait pas grand monde. Et ce qu'on voit, c'est que là, après plus de 500 000 km parcourus quand même avec les 46 véhicules hydrogène qui étaient disponibles, on est arrivé avec un constat où ça serait très peu probable qu'on utilise la technologie hydrogène dans la flotte de véhicules du gouvernement.
Okay.
Il y a plusieurs raisons qui amènent ça aussi au niveau de la fiabilité des véhicules. On a parlé aussi de beaucoup de pertes énergétiques tant au niveau du véhicule que de le remplir également. Des problèmes avec le remplissage aussi parce qu'il y a une seule borne. Fait que vous comprendrez qu'on n'a pas développé une technologie encore au point. Donc, il y a eu beaucoup d'embûches à travers tout ça. Le projet n'est pas nécessairement mis de côté à 100%, mais clairement, le gouvernement va arrêter d'investir là-dedans. Et on parle même que ce serait le véhicule lourd qui pourrait un jour emprunter cette technologie-là de l'hydrogène.
Ça serait plus avantageux pour eux autres, dans
le fond. Ça serait plus logique aussi quand on y pense, parce qu'on pourrait parcourir de plus longues distances avec des réservoirs qui se rempliraient plus vite. Mais maintenant, le problème est le même. Comment on va le remplir?
Est-ce que les concessionnaires investissent beaucoup pour faire de la recherche puis du développement à ce niveau-là, où on se dit, ben là, l'avenir, c'est l'électrique, fait qu'on s'enligne électrique, électrique?
Question extrêmement pertinente. Les constructeurs automobiles, honnêtement, investissent là-dedans. Il y a des joueurs comme Toyota, BMW,
okay,
Hyundai, qui offrent des voitures hydrogène là
okay,
dans leur alignement. Donc, ils en ont déjà. Je ne suis pas en train de vous parler de Lada ou des entreprises un peu louches quelque part dans le monde. Là. Je parle des géants de l'automobile quand même. Donc, on voit qu'il y a de l'intérêt. Ce qu'on va surtout dire au niveau de l'Europe, c'est que ça va prendre ce mix énergétique-là pour faire la transition. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'experts qui s'entendent pour dire qu'on ne réussira pas à avoir chacune une voiture à grosse batterie. Ça n'arrivera pas. Donc, il va falloir aussi penser à ces alternatives-là. Et il y a des gros joueurs, comme je viens de nommés, qui, eux, veulent tout de suite se positionner là, avantageusement okay, dans cette catégorie-là de véhicules hydrogène. Donc, j'en ai vu de mes propres yeux aussi, là, des BMW X5 à l'hydrogène, des Toyota Mirai à l'hydrogène également. C'est des véhicules qui existent. Mais le problème qu'on a, c'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas un constructeur comme Tesla qui va importer son propre réseau de recharge.
Et changer la donne pour toutes les autres.
Et voilà. Et le temps, surtout qu'on n'arrive pas là, croyez-y pas, là. T'sais, ouais. Tant qu'il n'y a pas personne qui fait vraiment le move, en bon français, de créer son propre réseau, ça va être très difficile de voir ça arriver massivement.
Parce que Tesla, ça a vraiment été le catalyseur pour tous les autres constructeurs. Hein? C'est ça qui a changé.
Et c'est pour ça que Tesla a autant de succès aujourd'hui aussi, puisqu'ils ont récolté, ils ont semé quelque chose que peu ont voulu faire, et d'avoir fait le réseau qu'ils ont fait de bornes électriques, c'est venu botter les fesses que... à tout le monde dans l'industrie. Et ensuite, ben, on a tout suivi. Tout le monde a suivi Tesla.
Ça a changé à gain.
Ça a changé à gain. Ils ont pris le monopole au début. Là.
Parce qu'au départ, moi, je pensais que c'était le véhicule, mais Toyota avait des Prius avant que Tesla soit en place, non?
Oui, c'est des Prius hybrides, donc c'était pas des purement électriques. Il y avait Nissan qui avait la Leaf. En 2009, hein, Nissan vendait la Leaf électrique purement sur le marché ici au Québec. Mais c'est vraiment Tesla qui est arrivé avec cette idée-là de mettre des bornes de leur propre compagnie, un peu à la Apple. On a notre propre chargeur, notre propre plug aussi pour rentrer la machine dans le véhicule. Et clairement, ça a amené cette espèce d'engouement-là. Et tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un Toyota, un Hyundai, un BMW ou les trois ensemble qui s'associent pour dire « Nous, on fait un réseau de distribution d'hydrogène à la grandeur du monde », ça va prendre du temps avant de voir l'hydrogène surpasser la batterie qu'on connaît actuellement.
Sam, tantôt, on parlait avec Alex Leblon, planificateur financier des finances de millionnaires de la Ligue nationale de hockey et ainsi de suite. On va rester dans la même thématique et tu vas nous parler de voitures qu'on ne pourra jamais s'offrir.
Oui, parce que Ferrari a sorti une voiture dernièrement, puis tu sais, c'est rare que ça arrive, et c'est pour ça que je prends la peine d'en parler. J'ai envie de vous faire rêver parce que j'espère que vos jeunes sont avec vous dans l'auto puis qu'ils écoutent ça parce que ça fait rêver, OK? Ferrari a dévoilé la F80. Pour faire une histoire courte, on développe des voitures de type hypercar dans l'industrie.
C'est une voiture, on va pouvoir se l'offrir sur un poster.
Sur un poster,
puis un petit modèle, là, Hot Wheels.
Et j'aimerais en avoir une en Hot Wheels, ça me ferait plaisir. c'est des voitures qui sont dans une catégorie à part entière. On n'est même pas dans la voiture sportive, là. On est dans le hypercar. C'est vraiment une catégorie unique. Très peu de constructeurs naviguent là-dedans. On parle de Porsche, Ferrari, McLaren qui vont vraiment être dans cette catégorie-là.
C'est au-delà des voitures exotiques?
C'est au-delà des voitures exotiques. T'es comme à l'apogée de l'excès. T'es vraiment là, rendu là.
Ouais,
là.
The Rock va en avoir une. Là.
Mais à vrai dire, The Rock n'aura peut-être même pas la chance d'en avoir une parce qu'on va seulement en faire 799 exemplaires, mais Luc Poirier au Québec va en avoir une.
Okay.
Il a été sélectionné par Ferrari.
Ah ouais?
Ouais, il a reçu les 20, il a même fait une vidéo sur sa page Facebook parce qu'il a reçu la petite boîte spéciale, l'invitation officielle.
Tabarnouche.
Mais l'invitation à s'acheter une voiture à 5,3 millions de dollars. c'est l'invitation qu'il a reçue. Ouais. On n'a pas les mêmes invitations.
Ben, ils peuvent me l'envoyer par la poste, mais je vais être obligé de décliner. Là,
ça a valu la peine de vendre son terrain.
Finalement, j'aurais pas pu me permettre ça. Et on parle d'une voiture, écoutez, qui va faire 1184 chevaux. Tu sais, pour donner une ordre de grandeur,
oui,
un Nissan Kicks va faire 140 chevaux. À peu près. Donc, tu sais, on est dans des chiffres qui n'ont pas de bon sens, des accélérations de 0 à 100 km/h en 2 secondes. On va faire du 0 à 200 km/h en dedans de 5 secondes. Puis, tu sais, mettons une voiture régulière, si je prends par exemple une Civic SI, une voiture sportive quand même, avec un moteur turbo, puis on va faire un 0 à 100 autour de 7 secondes. Donc, on parle d'un 0-200 en 5 secondes. Là. Donc là, on est rendu dans des chiffres qui n'ont plus de bon sens, vous comprendrez bien. Mais c'est surtout pour l'exclusivité et l'ingénierie derrière. Tu sais, mes amateurs de F1 qui écoutent, là, ça, là, c'est le résultat de la F1 que vous avez dans la voiture personnelle.
Leur recherche et développement, ça donne ça.
Okay. On dit souvent que la F1 amène des voitures en v'là une. Celle-là, ce n'est une. McLaren a sorti la W1 la semaine dernière, ou v'là deux semaines, qui était exactement le concurrent direct à cette voiture-là. Mais c'est tous des voitures de course. Vendu à des millionnaires.
Écoute, moi, j'étais parti pour l'acheter, mais là, j'ai vu que les portes ouvraient par en haut. Là, puis ça, j'aime moins ça un petit peu. C'est moins mon genre.
Je te trouve grand pour ce format-là. Puis, moi, je pense qu'on est poule, surtout. Avoir peur.
Faut pas qu'on passe à l'utilisation. C'est surtout le voir comme, tu sais, c'est un chef-d'œuvre. C'est un peu comme si vous y alliez au musée voir une œuvre d'art.
Ah, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui s'achète un tableau.
C'est littéralement un tableau. Ouais, puis c'est une voiture qui, tu sais, même si on va le payer plusieurs millions de dollars, va garder une valeur. À vie. Là.
Comment s'appelle le Québécois qui a l'opportunité d'en acheter une?
Luc Poirier.
Ouais, c'est parce que là, s'il l'amène ici, il va à scraper là, ses routes du Québec.
Je pense pas qu'on la voit sur les routes. On va la voir dans son garage. Là, Luc, j'appelle Luc comme si c'était mon grand chum.
Ouais, c'est
Luc.
Ça.
Non, mais tu sais, c'est parce qu'il est très verbal sur les réseaux sociaux. Mais,
il va rester poigné sur un dos down avec ça.
Je pense pas qu'il passe grand place non plus. Mais sortir de.
Le CA pour ça, hein?
Tu sais, juste passer entre des cônes à Montréal, je capoterais.
Par la F80 jamais.
Ouais, c'est pas fait pour ça, ben.
Pour vrai, je pense que CA, il est pas assuré pour ramener un véhicule comme ça, là, tu sais. Fait que c'est des voitures qui font rêver. Puis si vous voulez aller voir des photos, j'en ai mis plein sur le rpmweb.ca. Allez voir ça.
La valeur de ça, c'est.
Ben là, c'est 5,3 millions estimés. Là, c'est ce qu'on pense que ça va être. On n'a pas encore les prix officiels, mais tu sais, on projette facilement 5 millions de dollars pour ce véhicule.
Ça, tu loues sur 4 ans, j'imagine.
Ouais, c'est ça qui est plate. Tu peux pas prendre un paiement hypothécaire. Tu le mets sur 25 ans, mais ça n'existe pas dans ce cas-ci. Je pense que c'est un chèque.
Ils pensent pas à nous autres, hein, le petit travailleur.
Non,
jamais.
Non, ils pensent pas à nous. C'est pas une valeur.
Hey, tu reviens de l'Allemagne?
Oui.
Qu'est-ce que t'es allé faire là?
Chauffer des chars chers.
Oh yeah!
C'est ça que t'allais faire. Moi, c'est ça que t'allais faire aussi. Ouais, t'allais sur l'autobahn. Hey, d'ailleurs, l'autobahn, j'ai tellement envie de vous en parler parce que.
Ça, c'est l'autoroute, pas de vitesse, pas de limite
exact,
de vitesse.
Exact, mais autobahn, ça veut dire autoroute.
Ouais.
Fait que, tu sais, on a comme la perception que l'autobahn, c'est juste comme des gens qui roulent fou. Mais autobahn. C'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais je sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne sur l'autobahn, mais c'est vraiment très. C'est comme. Il y a comme une règle non écrite. T'embarques sur l'autobahn et t'as des allées qui sont établies pour la vitesse que tu roules.
Excuse, faut que je fasse jouer Autobahn de Kraftwerk. J'ai pas le choix. Tu me parles d'Allemagne, tu me parles d'Autobahn, j'ai pas le choix.
Mais ça veut dire que, tu sais, comme mettons les Ontariens qui roulent à 80 en voie de gauche sur une autoroute à 100, ils auraient pas le droit d'être là, mettons. Là.
Les Ontariens ou les gens du Québec aussi?
Non, c'est ça. En fin de semaine, j'ai pogné juste des chars de l'Ontario qui roulent à 80 dans la zone de voie de gauche.
Eux, après dire, c'est vraiment littéralement un danger là, sur ces autoroutes-là parce qu'il y a comme plusieurs voies. Tu as comme 5 voies. Puis allez-y assez simplement. De la droite à la gauche, c'est droite le moins vite, gauche le plus vite. Puis après ça, situez-vous là-dedans. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ce règlement-là, vous allez mourir. Parce que, parce que le monde arrive vite. Pour vrai, là, tu sais, comme ça roule vraiment vite.
Mettons, la voie la plus rapide, ça peut rouler à quelle vitesse?
Puis là, je peux le dire en plus que c'est légal ce que j'ai fait, tu sais, j'avais des voitures qui étaient assez performantes, dont une journée que j'étais tout seul avec un Porsche Cayenne Turbo e-Hybrid. Ça, c'est un VUS qui va vite, OK? Ça a comme 729 chevaux, puis c'est un VUS qui va vite.
T'as-tu la chienne de l'échapper, mettons?
Le problème avec ça, c'est
qu'est-ce qui arrive?
Hein? J'ai pas capable de penser à ça pendant que je suis dans le char.
Ouais.
C'est, après, des fois, je me dis, hey, hein, ça aurait été plate.
Parce que mettons que tu l'échappes et que tu survis, tu te ramasses avec un bill. Hein,
le véhicule que j'avais laissé, j'ai eu sa fiche technique, là, 258 000. c'est plus cher que ma maison. Je suis vraiment mal pris s'il faut que je rembourse ça. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, dans la voie de gauche, puis une chose que tu comprends assez rapidement, c'est que même si t'as un véhicule de performance, il y a toujours plus gros que toi sur ces routes-là. Puis, tu sais, j'ai eu une vitesse à 258 km/h.
Oh!
J'ai atteint ça avec le véhicule, wow. Mais dans mon rétroviseur, je voyais des lumières
tu
arriver. Non, mais j'allais dire de loin, là, mais
il
y avait des lumières qui s'en venaient vers moi. Ça veut dire que quelqu'un devait rouler 270, 280, 300 km/h.
Wow.
Et là, tu te dis, OK, ici, c'est vraiment la jungle. Faut savoir aussi que les autobahnes ne sont pas, pas de vitesse à la grandeur. Il y a des vitesses qui sont extrêmement strictes aussi. Et en Allemagne, si vous dépassez d'à peu près 3 km/h la vitesse limite, vous allez avoir un ticket.
Ça, là. Pourquoi on met des limites de vitesse aussi basses pour avoir un jeu de contravention? Mettez-les plus hautes, mais donnez pas de jeu exactement.
Ben, je me suis pincé, honnêtement, dans ce voyage-là, parce que, justement, j'étais habitué de conduire en Amérique du Nord, puis il y a toujours eu cette espèce de flexibilité-là.
Ouais.
Puis je roulais dans une zone de 70 à 60-quelques km/h, il y avait une zone de 50. Et j'ai juste lâché l'accélérateur en me disant « la voiture va décélérer », mais tout de suite après le 50, il y avait un photoradar, j'ai passé à 60. Le photoradar a allumé.
Ah ouais.
Puis tu sais, je roulais 60, je roulais pas nécessairement vite, mais c'est vraiment très strict là-bas. Donc, c'est permissif, mais en même temps, très, très, très strict sur les limites.
Ouais.
Et tu apprends ça à tes dépenses. Ça m'a coûté un ticket en euros, c'est plate un peu. C'est un peu tannant.
Combien?
98 euros.
OK.
C'est sans quelques... Je sais plus trop, là. Ça a passé sur ma carte de crédit, puis j'ai un petit peu pleuré. Fait que, pas de points, heureusement, mais déçu quand même de l'expérience. Donc, je vous déconseille fortement de faire de la vitesse dans les zones qui ne sont pas permises en Allemagne. Mais blague à part, j'ai essayé des voitures avec le constructeur Porsche.
Ouais.
Dont la nouvelle Macan électrique, le nouveau VUS électrique, d'entrée de gamme maintenant chez Porsche, qui est à 100 000 $ le prix de départ. C'est quelque chose, honnêtement, en termes de prix et de véhicule aussi. Puis prochainement, là, je vais vous parler de la Panamera aussi, qui est une voiture, encore une fois, très excessive, très de luxe, que j'ai eu la chance de conduire sur les routes. C'est avec elle, d'ailleurs, que j'ai eu mon ticket. Donc, mais au moins, j'ai une photo.
J'ai une photo du ticket.
J'ai une photo du ticket avec mon volant. Fait, je me suis dit, c'est comme si je m'étais acheté un souvenir. C'est comme un souvenir de la qui coûte cher, mais là, il est sur mon friche d'air. Je suis pas si déçu que ça.
Ben, c'est ça qu'ils disent, hein, de ramener des souvenirs
ben
quand
oui.
on va en voyage.
C'est une histoire à compter également.
Chérie, c'est quoi le 98 euros? C'était la photo souvenir.
Oui, c'est ça, j'ai ramené ça.
Comme à Disney.
Je voulais pas oublier mon voyage.
Si on revient dans le domaine des voitures, comment dire, j'allais dire abordable, là, en tout cas, achetable pour le commun des mortels, tu voulais nous parler du nouveau Nissan Murano.
Ben, je trouve ça important de vous en parler parce qu'on a un amour pour le Nissan Murano dans la ville de Québec et au Québec. On aime le Nissan Murano qui est arrivé en 2002 sur le marché avec un look qui était vraiment cool. Une espèce de gros VUS arrondi, avec des lumières pixelisées à l'arrière.
Il était les premiers à l'arrondir comme ça.
C'était vraiment
ça a
capoté.
Été copié au bout après.
Ça a été super copié. Puis Nissan avait de l'audace dans cette époque-là avec le design de ses véhicules. Chez Infiniti, on avait le F35 et le F55. Deux VUS aussi qui avaient des courbes qui étaient vraiment différentes dans le lot des VUS qu'on connaissait. Et le Murano a quand même vieilli de manière assez intéressante, a suivi plusieurs générations. Et tu sais, on s'est rendu à la troisième génération qui a été lancée en 2014 comme modèle 2015. On l'a connu pendant 10 ans, c'est long pour une génération aujourd'hui, surtout dans cette catégorie-là où on renouvelle beaucoup de véhicules. Et on a présenté officiellement hier le tout nouveau Murano de 4e génération, un véhicule qui revient avec sensiblement les mêmes composantes, donc un VUS intermédiaire 5 places. C'est axé, encore une fois, sur des gens qui vont pas nécessairement avoir qui veulent pas avoir un 7 passagers, mais qui veulent pas avoir un petit VUS.
Ouais.
Donc, c'est un VUS assez costaud quand même. Arrive de série maintenant avec un système intégral, donc c'est 4 roues motrices maintenant de série. On a retiré le bon vieux moteur V6 3.5 litres. Et je dis bon vieux parce que je vais m'en ennuyer. On a mis à la place un 4 cylindres, 2 litres turbo. C'est assez conventionnel jusqu'à maintenant, mais on a mis un espèce de système de compression variable à l'intérieur. Ouh, là, j'ai hâte de voir la longévité de ce système-là. Honnêtement, là, je vais avoir de la misère au début à le conseiller là, pour commencer. Là. On va falloir que le véhicule fasse ses preuves. C'est une motorisation qu'on connaît chez Infiniti, mais à voir et à suivre au niveau du rendement et de l'efficacité. Mais bref, on a retiré le V6 pour mettre un 4 cylindres. Nissan, par contre, a vraiment renouvelé l'intérieur du véhicule et ça y a fait beaucoup de bien. On n'est plus en 2014, on est vraiment rendu en 2025. On a des gros écrans à l'intérieur, on a de l'espace
beau,
aussi.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a le minimum de détails là,
oui,
pour que ça soit chic.
Puis Nissan ont une technologie qui s'appelle les sièges zéro gravité. Là. C'est comme ça qu'on les brand. Mais c'est comme des espèces de sièges qui sont pensés pour la colonne vertébrale et l'assise.
Ils en font-tu de la radio de ça?
Ça serait vraiment intéressant. Hein, mais vois-tu, ça serait vraiment pertinent qu'ils en développent dans des chaises d'ordi parce que j'en achèterais tellement ils sont confortables.
Okay.
J'ai essayé dans le nouveau Nissan Kicks qui sont aussi offerts en option. Puis c'est vraiment un siège qui est vraiment confortable. C'est deux séries maintenant dans le Murano aussi. Donc je pense qu'on est venu chercher des bons ingrédients à gauche et à droite. Maintenant, si le look vous plaît, ben c'est un VUS qui va être à considérer, mais il va falloir voir la fiabilité de ce camion-là. J'ai pas encore les prix non plus. J'espère que Nissan va nous vendre la version SV aux alentours d'un 38, mettons, 35.
Il serait dans le game, là, s'il arrivait avec
un montant de même. Je serais content, mais je m'attends du 42-43, okay. Puis ça commence à me faire un peu peur.
À suivre, Sam Tremblay Michaud, on te rejoint sur Facebook.
Toujours un plaisir de vous répondre.
Hey, merci beaucoup.
À bientôt.
16h37, Sam Tremblay Michaud, qui est notre chroniqueur automobile. On fait une courte pause et on revient sous le soleil, à 12 degrés présentement à Québec.
Gravel, dans le retour.